S'il y avait un mot pour définir cette page d'évangile, ça serait le mot scandale. Quand nous entendons flagrant délit, quand nous imaginons cette scène abominable, cette femme traînée, ses cris de haine, et puis bien sûr Jésus pris complètement à contre-pied. Alors, tu justifies ce crime de l'adultère ou tu fais comme les autres, tu la condamnes? Voilà quelque chose qui a été tellement surprenant que dans un premier temps, souvent ce passage n'a pas été recopié dans certains manuscrits des origines. Alors regardons d'un peu plus près ce scandale. Avec un deuxième, je vous signale que dans la deuxième lecture de saint Paul aux Philippiens, face à l'amour de Dieu, tout le reste, c'est, alors dans la traduction actuelle, c'est marqué des ordures. C'est déjà pas très joli. Dans la traduction d'avant, c'était marqué balayure. Personne ne sait trop ce que c'est un terme qu'on n'utilise pas. Mais dans le texte original grec, c'est skoubala, ça veut dire quoi? C'est de la merde. Par rapport à l'amour de Jésus, tout le reste, c'est de là. Quand même, c'est scandaleux dans la Bible d'utiliser des mots aussi orduriers, n'est-ce pas? Alors en fait, regardons de plus près. Qu'est-ce qui est vraiment scandaleux? Nous qui savons bien tout l'amour de Dieu, nous qui essayons d'y répondre, mais qui, bien souvent, nous attachons à des choses qui sont bien loin de l'amour vrai. C'est plutôt l'amour de choses lamentables, médiocres, voire abominables. Alors, ce qui est scandaleux, c'est en nous cette proportion à nous contenter de choses minables, alors que nous sommes appelés à tellement plus. Et c'est le cri de saint Paul, qui est à ce moment-là en prison, et qui écrit à des Grecs de la ville de Philippe. Il leur écrit avec une joie incroyable. Question pour nous, comment peut-on être dans la joie alors qu'on est en prison? Eh bien justement, tout le reste des attachements aux choses futiles, ben, il n'y en a plus en prison. Tout l'attachement qu'il a à Jésus, et Jésus dont il décrit qu'il est passé par l'amour total en donnant tout alors qu'il était condamné, livré, crucifié, il a atteint le summum de l'amour en donnant absolument tout et en ressuscitant, bien sûr. Et c'est ce que Paul désire. Par la suite, il va être libéré, puis recapturé, puis relibéré, puis à la fin, à Rome, décapité. Alors, pour nous, il reste deux courtes semaines d'ici Pâques. C'est le temps, comme Paul, de dire « Maintenant, je suis tendu en avant. Je vais essayer au moins de poser quelques gestes de renoncement, de privation à des choses futiles qui me font aucun bien. » J'ai aucune consigne à vous donner, mais je vous encourage à faire un peu le point dans la prière et puis à dire « Ben Seigneur, il y a quand même des choses, là c'est pas bon pour moi. » Et puis, éventuellement, et c'est un encouragement fort, demander le pardon pour tous les gestes décalés, pour tous les péchés. Ça fait tellement de bien de nous faire libérer par Jésus dans ce sacrement pour pouvoir accéder à la libération plénière, au détachement des choses qui nous ont fait du mal pour accéder à une joie bien plus pure. Et puis, des petits efforts, et les deux vont ensemble, des petits efforts pour dire ça, ben, je vais m'en passer vraiment, et t'offrir cet effort à toi, Seigneur, qui le voit et qui l'accepte. Ce geste, ce petit moment de conversion qui va en entraîner beaucoup d'autres pour une joie bien plus forte. Alors, il y en a qui se disent, il faudrait quand même qu'il parle de cet épisode de la femme adultère. Oui, vous imaginez le scandale. Jésus qui a couché au terrain de camping de Jérusalem, ça s'appelle le Jardin des Oliviers. Il était pauvre, il n'avait pas de quoi se payer l'hôtel, ses amis aussi. Eh bien, il est là, dans la journée, c'était au moment de la fête des tentes, vers septembre-octobre, selon la lune cette année-là. Et puis, ceux qui déjà avaient émis le projet de le condamner, ceux qui étaient furieux contre ce provincial du nord de la Palestine, que tout le monde aimait et qui avait l'audace de parler de Dieu comme jamais personne avant lui. Alors, ils ont trouvé un joli piège. Ils ont surpris une femme en état d'adultère. Et ils l'amènent dans la loi de Moïse. Ce crime était puni de mort et de mort par lapidation. Pourquoi ? Dans un monde sauvage, il y avait des lois extrêmement sauvages pour essayer de canaliser les ardeurs décadentes et de remettre les choses un peu droites. Il y a encore des pays où ça se pratique, nous le savons. Quelle horreur! Alors, dans notre mentalité d'aujourd'hui, au fond, on dit « mais, oh, c'est pas si grave que ça ». Les films à la télé passent leur temps à nous montrer des épisodes de gens qui changent de copine, qui vont voir ailleurs, qui après ça font autre chose. Et on dit, mais l'Église, vous êtes vieux jeu de considérer que changer de femme, finalement, tout le monde le fait. Il y a même des statistiques pour prouver que la proportion des hommes et des femmes qui sont fidèles à leur mari ou à leur femme, c'est, alors je ne vous redis pas le chiffre que j'avais lu, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais comment peuvent-ils extrapoler et bâtir des statistiques sur quelque chose d'aussi intime? Quand même, ne nous laissons pas piéger par cette morale inversée qui aurait tendance à dire bien ce que tous nous savons être un drame, et puis aussi dire mal quand certains osent proclamer un évangile de vérité. Alors, on se cantonne à l'épisode. Le scandale, en fait, vous croyez pas que c'est ces hommes qui, par voyeurisme, ont fini par tomber sur un couple en train de commettre un acte répréhensible? Ils sont pas clairs, ces gens-là, d'aller regarder par le trou de la serrure pour surprendre quelqu'un à faire le mal. Et puis, quel est le deuxième scandale? Est-ce que, une fois que le flagrant délit a été prononcé, attraper la femme et l'homme, il est passé où? L'amener à Jésus pour piéger Jésus. Et puis, vouloir que Jésus lui-même commence la lapidation, et après ça, il serait tellement, finalement, content dans leur haine malsaine de pouvoir eux aussi être, à libérer toute leur méchanceté en jetant des pierres sur une femme probablement très belle. C'est scandaleux, cette attitude. À un adultère, et le mot est terrible, ajouter un meurtre, et le mot est encore plus terrible. Est-ce que ça va vraiment arranger les choses? Alors maintenant, face à ce scandale, comment Dieu le dénonce-t-il? Comment s'y prend-il pour remettre les choses à plat et pour reconstruire après tous ces drames que nous vivons? Première chose, c'était montré dans le dessin avant la messe. Jésus est au sol, il trace des petits dessins ou des traits dans le sable de l'esplanade du temple. Ça nous donne une première attitude de recul par rapport aux événements de violence, de détachement en disant « je ne veux pas rentrer dans une polémique mortifère qui va amener de toute façon à des horreurs. Je prends du recul. » À ce moment-là, les scribes et les pharisiens, les ennemis, l'interpellent directement. « Alors, la loi a dit que cela, il faut les tuer. Que dis-tu ? » Si Jésus dit « il faut les tuer », il n'est pas meilleur qu'eux. Si Jésus dit « faut pas la tuer », à ce moment-là, il se dresse contre la loi de Moïse. Le piège est bien tendu. Et Jésus continue à faire silence, à tracer ses petits signes au sol. Et puis cette phrase qui prend tout à l'envers, ou plutôt qui remet tout à l'endroit. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Après ça, les autres pourront continuer. Qui, parmi les lâches, dans une intention criminelle, finalement de se défouler comme on se défoulait sur le bouc émissaire, comme on déchargeait la violence sociale sur quelqu'un, si possible, de très beau ou très belle, personne n'est capable de se dire sans péché pour lancer la pierre. Quelle habileté du Seigneur et quel mouvement déterminant que Dieu nous donne par rapport à tellement de scandales d'aujourd'hui. Jésus ne dit pas que l'adultère est grave, n'est pas grave, pardon. Et continuons à savoir que certains péchés sont littéralement destructeurs pour les couples, pour la famille. Faire tout pour l'éviter, c'est surtout construire l'amour, aller au-delà des petites blessures et de tout ce qui peu à peu sépare et met la pagaille dans les couples jusqu'à certaines fois des actes extrêmement graves. Si nous construisons l'amour, si nous suivons Jésus sur ce chemin d'humilité, si nous demandons pardon pour les petits péchés et les petites blessures que nous avons infligées aux autres, il y a déjà beaucoup de lumière qui se fait, beaucoup de libération par rapport à tous nos mouvements de colère, de jalousie, de détestation parfois de ceux de notre famille. Alors, deuxième mouvement. S'il y a quelque chose de grave qui s'est commis, non pas dire « c'est pas grave », non pas dire « je condamne », mais « je reconnais que moi aussi, je ne suis pas sans péché ». Et dans les larmes et dans l'humilité de ce savoir pécheur, Jésus ne dit pas « je te pardonne », pas encore. Moi non plus, je ne te condamne pas. Et puis, ne recommence pas, hein, pardon, je reprends la phrase exacte, va et désormais ne pêche plus. Attention, il ne s'agit pas de dire, ça m'a rien fait. Beaucoup de blessures sont trop blessantes. Mais, l'amour de Dieu descendu au plus profond des blessures est plus fort que les crimes les plus abominables. Preuve, Jésus, à la fin de ce chapitre 8 de Saint Jean, essayant d'amener les mêmes à la connaissance plus profonde de Dieu et à l'amour qui les libérera, Jésus, à son tour, a failli être lapidé. Ce jour-là, il a réussi à s'échapper. Les conséquences des péchés qui tuaient les coupables, Jésus les a prises sur lui. Et plus tard, à un autre passage à Jérusalem, Jésus a tout pris sur lui. C'est ce que nous célébrerons la semaine prochaine en entendant au rameau, l'évangile des rameaux, et puis après ça, l'évangile de la condamnation et de la mort de Jésus. dès à présent, remercions-le de la mise en lumière qu'il fait sur nos scandales terrestres, du retournement qu'il accomplit à tous ceux qui veulent écouter sa parole, de la force qu'il nous donne pour nous convertir et pour proposer cette conversion à tous ceux qui en ont tellement besoin dans le malheur qu'ils subissent ou dans lequel eux-mêmes se sont mis, que la lumière de Dieu puisse passer par nous, pour eux. Amen.